Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois. Vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec son président Hervé Delouche, qui est aujourd'hui avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Eh bien, bonjour Guy.
Voilà, donc on t'entend parfaitement, c'est très bien. Alors, le mois dernier, nous nous étions arrêtés, Hervé, aux frontières hexagonales du polar. Mais nous avions parlé de trois auteurs français.
Même si on s'était aventuré au Pays Basque Sud.
Effectivement.
Voilà.
Trois auteurs qui montent en puissance dans le genre. Hein. On peut rappeler ces trois auteurs, Karim Madani, donc Marin Ledin, avec un roman qui se déroule au Pays Basque. Et puis Antoine Chénas, on peut signaler, puisque c'est officiel aujourd'hui, que ces trois auteurs font partie de la sélection des cinq romans qui ont été retenus pour le prix Amila Mecker 2014.
Absolument.
Voilà. Donc, on a eu le nez fin, je pense. Hein.
Eh oui.
Voilà. Donc, le mois dernier, donc le polar français. Et ce mois-ci, nous avons décidé d'aller voir au pays qui reste, je pense, la référence en la matière.
Du roman noir.
Le berceau, voilà, le berceau et qui reste donc. La référence à l'occasion de la sortie de trois livres, dont l'un d'un auteur aujourd'hui considéré comme un maître du genre, si ce n'est le maître du genre, James Ellroy. C'est la grosse sortie du mois, roman intitulé « Extorsion ». Enfin, on y reviendra de toute manière, c'est de lui dont on parlera en dernier, chez Rivage Thriller. Nous avions aussi évoqué la grosse sortie du mois, Willocks, qui n'est pas américain, lui, et qui donne la suite de La Religion avec 12 enfants de Paris aux éditions Sonatine. Mais on reviendra sur ce bouquin, parce que pour le lire, il faut quand même un peu de temps, Hervé. C'est un pavé de 900 pages, donc on y reviendra. Nous avons retenu deux autres sorties, Frank Bill, Donnybrook, la série noire chez Gallimard, parce que c'est un auteur que tous les deux nous avons apprécié pour son précédent livre, Chienne de vie, à la série noire. Et puis enfin Christopher Cook chez Rivage. Particularité, c'est pas du Rivage Thriller, c'est pas du Rivage Noir, c'est Rivage tout court, pour un recueil de nouvelles, Langue de Feu. Donc voilà notre programme, et puis nous évoquerons en fin d'émission le rendez-vous important, on va dire ça comme ça, du polar dans l'année, avec le festival Quai du Polar, le salon Quai du Polar, hein, qui aura lieu bien prochainement, puisque c'est début avril. Hervé ?
Oui, il a lieu, c'est le festival de Lyon, hein, ouais. Qui a lieu les 4, 5 et 6 avril, voilà.
Bon, donc on en reparle rapidement en fin d'émission. Alors, je te propose, Hervé, de débuter par Frank Bill, Donnybrook, série noire Gallimard. Alors, pourquoi commencer par Frank Bill ? Parce que c'est aussi un lien assez facile avec notre dernière émission, puisque ce roman est traduit de l'américain par Antoine Chénas, qui est lui aussi auteur de la série noire et dont nous avons déjà bien parlé à ce micro. Donc voilà. Alors, Hervé, ta lecture de Donnybrook, je ne sais pas comment on dit.
Alors, Donnybrook, oui, on va, disons Donnybrook.
D'accord.
Si on prend, on va prendre le tout début du roman, dès les premières lignes, ça commence fort, ça commence par le braquage d'une armurerie. On est, je crois qu'on est au fin fond de, je sais plus si c'est du, enfin c'est peut-être de l'Indiana cher à l'auteur ou.
C'est le Kentucky, je pense.
Je crois que c'est le Kentucky.
Et ensuite on va aller
dans l'Indiana.
Ouais, voilà, c'est ça.
Mais
ouais.
Voilà, c'est au fin fond du Kentucky, c'est-à-dire une Amérique profonde quand même. Voilà, et donc on a un gars qui se prénomme Marine et qui vient braquer une armurerie parce que tout bêtement il faut qu'il nourrisse et qu'il permette de soigner à sa jeune épouse, il y a ses gamins qui crèvent la dalle, etc. Et il emporte en fait un fusil et des munitions et il ne prend dans la caisse que $1,000. Parce que il n'est pas, c'est pas simple, c'est pas un gangster, c'est un, il veut aller s'inscrire au Donnybrook. Alors justement, voilà, qu'est-ce que c'est Donnybrook ? C'est un rendez-vous
annuel.
De l'Indiana, c'est une espèce de terrain avec une immense bâtisse et c'est surtout un lieu où se livrent des combats sauvages à main nue avec en fait jusqu'à ce qu'il en reste un debout, ce genre de combat qu'on a déjà croisé en littérature ou au cinéma récemment par exemple dans un film qui s'appelle Les Brasiers de la Colère. Et qui sont Frank Beal, tout le roman va nous emmener là-bas, Marine va aller là-bas, et puis il va y avoir une espèce de course-poursuite avec une série de personnages dont les plus fameux vont, si on peut dire fameux, vont être Angus, Ned, une fille aussi déjantée, Liz, un chinois mystérieux et particulièrement sadique, fou, et tout le monde va se retrouver dans un état plus ou moins abîmé, dirons-nous.
À tous les niveaux,
physique, mental. Ouais. Voilà. Mais pour donner une idée, voilà ce que Frank Beal dit. L'aîné avait appris à Marine que le Donnybrook consistait en un tournoi clandestin organisé tous les ans au mois d'août, 3 jours de combat sur un terrain de 500 hectares au cœur de la forêt, propriété de Belmont McGill, un enfoiré de sadiques riche à crever. 20 concurrents entraient sur un ring clôturé, un seul en sortait, et des hordes de spectateurs, hommes, femmes, allumés à la gnôle, camés jusqu'à la moelle, parlaient devant leur grillade. 2 matchs vendredi, 4 samedi. Les 6 finalistes s'affrontaient dimanche pour $100,000.
Voilà, alors, c'est page, c'est oui. Page 39. Hein, je l'avais
absolument.
Sous les yeux. C'est, je l'avais aussi sous
c'est
les yeux.
C'est page 39.
C'est vrai
ça
que
résume
c'est
le truc
tout,
qui est complètement
tout à fait.
Le ce qui est complètement qui est complètement hallucinant, c'est effectivement ce Donnybrook, parce qu'on n'est pas simplement face à une salle de boxe sauvage, une sorte de fighting club. C'est une sorte de version ultra moderne et terrifiante d'une fête foraine à laquelle se rendraient des familles aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens viennent en masse assister à ces massacres humains, à ces combats de gladiateurs. Ils amènent des chevreuils à rôtir, des lapins, ils amènent de la bière en quantité, du bourbon de mauvaise qualité, de la meth, de la drogue, dont un usage très fort se fait. C'est aussi un roman où on voit pas mal d'activités de laboratoires, évidemment pirates, de fabrication de cette drogue qui fait des ravages. Voilà, moi je ne sais pas ce que tu en penses, Guy. C'est un roman qui est en tout cas, comme on dit, un vrai coup de poing, un véritable coup de poing.
C'est
extrêmement violent, ça va extrêmement vite. On a même du mal à souffler tellement les poursuites, les trahisons, les coups tordus, les coups de points et d'autres choses que de points se succèdent, c'est, on arrive, on est un peu épuisé quand même,
ouais,
non
ouais, coup de poing, ça c'est le cas de le dire. Moi je voudrais revenir sur le début, là, hein, le braquage dont tu as parlé, qui est assez particulier. Et d'ailleurs, bon, ce début, moi je l'ai inscrit dans la droite ligne de Chienne de vie, hein, le recueil précédent, le recueil de nouvelles précédent de Frank Beal à la série noire, qui était vraiment une mosaïque de fêlures, de fissures, de ruptures, un roman noir, mais vraiment très, très crucial, quoi. Et c'est vrai que ce braquage, parce qu'il est quand même particulier, ce braquage, hein, tu dis qu'il a emmené le fusil, il n'a même pas emmené le fusil, il a d'abord braqué le vendeur, hein, le magasin, l'armurier, pour lui piquer un fusil, pour lui mettre encore plus de pression, pour récupérer 1 000 euros tout pile, mais il a laissé le fusil
en partant.
Voilà, hein, il le laisse, le fusil, quand il part.
Oui.
Et donc c'est un braquage, en plus, un visage découvert, connu, puisqu'il braque l'armurier donc c'est un braquage vraiment de quelqu'un qui est au bout, on se dit que c'est quelqu'un qui est au bout socialement. En plus, il prend 1000 euros, donc on comprend effectivement après, hein, tu as raison de le dire, que ça va lui permettre de s'engager dans ce fameux tournoi là, hein, qui peut le rendre riche. Mais on pourrait, ça aurait pu aussi être quelqu'un au bout du rouleau qui a besoin de 1000 euros parce que Marine, il a deux enfants, il a une famille, bon, il est dans la dèche, il a besoin de nourrir ses enfants, etc. Ça faisait vraiment ce braquage là, hein, pas le truand professionnel.
Non, pas du tout. C'est une façon très originale, comme tu dis, et on sent, c'est le gars, c'est le laisser pour compte complet, comme on en avait une multitude dans ce recueil de nouvelles magnifique, là, Chienne de vie, et c'est vraiment un moment, Frank Beal le dit, le rêve américain avait vécu, puis il s'était perdu. Là, on est vraiment avec un gars qui est en perdition et pour qui, en fait, il s'agit même plus de vivre, il s'agit de survivre et d'en trouver les moyens, quitte à se sacrifier, à sacrifier sa vie.
Tout à fait, oui.
C'est ça, c'est le risque de ce type de combat, hein. C'est pas des combats dans les règles, on l'a bien compris.
Ouais, hein. Voilà. Mais après, voilà. Justement, donc, le roman dévie un petit peu de ce point de départ très noir, très social, pour rentrer dans une littérature, bon, tu l'as dit, coup de poing, et on n'a plus le temps de souffler, et c'est quand même, je pense que les auditrices, les auditeurs ont dû le comprendre, c'est un combat de catch jusqu'à la mort, si on achève bien les chevaux, quoi, quelque part.
Absolument,
hein,
c'est dans une version comme ultra contemporaine.
Voilà, c'est ça. Et donc, il y a du Mad Max là-dedans, il y a un culte aussi du muscle, parce que ce sont tous des costauds, hein, qui castanent, qui encaissent. D'ailleurs, on se demande, hein, comment ils survivent, pour certains, vu les ce qu'ils se prennent dans comme raclée. Mais donc, et cette dimension sociale, en fin de compte, elle se dilue un petit peu dans cette violence, dans cette hémoglobine qui coule en permanence. Mais en même temps, c'est ça aussi, je pense.
C'est ça aussi. C'est effectivement extrêmement violent. Peut-être pas complaisant là-dedans, mais il y a quelque chose qui aussi fait penser un peu à du Tarantino, c'est-à-dire que version roman, enfin moi j'ai trouvé, c'est-à-dire que, bon, voilà, moi j'avoue quand même avoir préféré, j'ai aimé ce livre, bon, mais il est effectivement, on n'en sort pas indemne et on a envie de le continuer quand on l'a commencé, mais je crois avoir préféré cette mosaïque dont tu parlais, de ces fêlures extrêmement violentes également, mais qu'il y avait dans Chienne de vie, avec par ailleurs des nouvelles très courtes, très efficaces, et où se répondait, où on retrouvait parfois des personnages, enfin voilà, là, il y a un peu cette spirale quand même, dans laquelle on est pris, mais bon, avec comme tu le dis, un peu le social, presque l'humain, passe un peu au second plan et c'est plus Tarantino que Peckinpah, voilà, pour ça. Qui est de rester dans la violence et d'une référence de cinéma.
Mais ça reste complètement maîtrisé. Et, bon, oui. Et moi j'ai lu, bon, on est scotché. Hein,
on est scotché.
Ça c'est clair. Alors tu parlais de bon, son recueil de nouvelles. On peut aussi citer, en fin de compte, cette ce courant un peu littéraire aux États-Unis. Bon, Frank Bill est très ami avec Donald Ray Pollock,
qui
me semble a obtenu le dernier trophée.
A été sans doute un de ses premiers lecteurs.
Voilà, c'est ça.
Il l'a encouragé à...
Donald Ray Pollock, dernier trophée 813.
Absolument.
Voilà. Donc, dans cette même lignée d'une littérature de témoignage de la réalité quotidienne des États-Unis.
Il y a aussi un auteur auquel Frank Bill fait référence, puisque Frank Bill sera à Quai du Polar, justement, et dont on lui demande ses auteurs préférés. Et il cite Larry Brown, qui est un auteur qui est décédé maintenant, dont Gallmeister vient de faire republier, en ayant revu la traduction, Joe, qui est absolument magnifique.
Ouais, le premier roman de Larry Brown, qui était sorti à l'époque à la noire.
D'une Amérique profonde, de personnages laissés pour compte, et puis des débrouilles qu'ils ont, etc. Mais il est évident que par rapport à Daniel Woodrell, par rapport à Chris Offutt, à Larry Brown, à des gens comme ça, enfin moi ça me fait penser un peu à ces auteurs-là. Et puis là, on est dans le sud profond. Je pense quand même que Frank Bill se caractérise quand même par une très forte dureté, une très forte violence.
Voilà.
Qui ont tout leur intérêt, mais qui est quand même une marque de fabrique et une écriture qui va avec, sans jamais de pathos. Voilà. Ouais.
Alors donc, nouvelle, on va parler de Langue de Feu.
Je voulais juste signaler, puisqu'on parle de nouvelles, que Chienne de Vie, de Frank Bill, vient de paraître en poche chez Folio Policier.
Ouais, donc nous conseillons donc la lecture de cet ouvrage. Alors Langue de Feu, Christopher Cook. Mais on peut aussi considérer Christopher Cook dans cette veine littéraire. Oui. Et Langue de Feu en fait la démonstration. Alors c'est pas le même style, on n'est pas dans le Tarantino là, au contraire, on est plus, je dirais, dans du contemplatif peut-être.
Oui.
Donc un recueil de nouvelles qui est paru chez Rivage, comme je le disais, donc Rivage tout court.
Oui, on serait plus vers Terrence Malick que vers Tarantino.
Voilà.
Ça, c'est clair.
Donc Christopher Cook, il faut le dire, il avait c'est le troisième ouvrage qui est publié en France, qui est traduit. Oui. Ce recueil de nouvelles est traduit par Pierre Bondil.
Et oui, donc, qui est le traducteur de Christopher Cook, je crois, et qui le suit de près et de façon complice.
Donc il y a un premier roman qui était sorti en 2002, Voleur, en Rivage Thriller. C'était un roman noir. Donc un deuxième ouvrage est sorti un peu plus tard, Bethlehem, Texas. Alors déjà là, il avait fait la bascule vers Rivage tout court, Rivage collection blanche, collection littérature générale. Donc c'est vrai qu'en une bonne dizaine d'années, il y a que trois ouvrages qui sont sortis. Je pense que ça donne un petit peu une idée aussi de ce que de l'écriture de l'auteur qui est un auteur qui prend vraiment son temps. En tout cas, on reste toujours dans cette même logique. Et moi, bon, les quatrièmes de couverture, souvent c'est un petit peu de la trappe lecteur, c'est normal, l'éditeur fait son boulot, mais en tout cas là j'ai trouvé que ce qui était écrit sur la quatrième de couverture, ça correspondait vraiment à ce que j'ai ressenti en refermant le livre. Ce recueil de nouvelles, je cite, est une plongée dans un territoire qui a nourri les westerns et la littérature, de Faulkner à Cormac McCarthy. Mais c'est l'envers du mythe que Cook s'attache à dépeindre. Les cow-boys valeureux ont laissé place à des ouvriers qui traînent dans les bars pour tromper l'ennui et le chômage. C'est bien dit.
Ah ben c'est tout à fait bien dit et fait écho à ça dans la première longue nouvelle du recueil qui s'appelle La Tourmente, je crois. Il y a un moment, un personnage qui est le fils, puisqu'il y a un grand-père, un petit-fils... qui sont importants, etc. Et puis, à un moment, l'un des fils, donc entre les deux en génération, arrive et il dit, il est allé chercher, il dit, on dirait qu'il n'y a rien de rien comme travail nulle part. Là, on est dans le même traitement totalement différent littérairement, mais dans le même constat que chez Frank Bill, c'est-à-dire que c'est... Ben voilà, il n'y a plus rien nulle part et il faut tenter de vivre.
Voilà, c'est ça.
Mais.
Donc il y a cinq nouvelles, il me semble. Oui, c'est ça, cinq nouvelles. Deux qui sont assez longues, la première et la dernière. Tu viens d'évoquer la
Oui.
première, hein, l'histoire d'un jeune homme, Fred, qui travaille dans une raffinerie. Donc là, on est au Texas, hein,
Oui, on est au
on
Texas,
est au
absolument.
Texas, hein, et donc qui ne veut absolument pas retourner dans cette raffinerie. Euh,
C'était à Port
c'est con,
Arthur, je crois,
voilà, ouais,
ouais.
c'est ça, c'est contre nature. Il n'y a que du bruit et une puanteur tellement écœurante que tu en as mal au ventre, hein,
Oui.
explique-t-il. Et donc, il veut trouver autre chose, mais il n'y a rien d'autre. Et donc,
Non, l'exploitation forestière n'en
voilà.
bouge plus. Enfin,
Voilà,
tout
il vit
est. Voilà,
avec
tout
sa
est.
femme et son petit garçon, donc il est retourné chez lui, hein, dans ce Texas rural, très rural, hein, qu'il
Très rural,
apprécie,
oui.
mais bon, ça coince. Alors moi, je voulais, on en a parlé au téléphone pour préparer cette émission, il y a une de ces nouvelles qui m'a particulièrement convaincu complètement en tant que lecteur, c'est celle qui est intitulée Le Code.
Je partage ton avis.
Voilà, une histoire très simple, d'amitié, simple, mais qui peut devenir compliquée. En tout cas, pour
Très.
moi, c'est vraiment un modèle du genre, cette nouvelle, hein. Elle est assez courte, mais vraiment, c'est une nouvelle à faire lire dans les écoles de littérature, s'il y en a, parce que
Ah, tout
je ne
à
sais pas ce
fait.
que tu en penses, Hervé, c'est vraiment très
Tout
fort.
à fait. C'est un véritable bijou, cette nouvelle qui se passe, qui se passe en fait dans dans un petit snack, quoi, dans un resto, voilà, et avec des personnages. Il y a aussi une chose, tout à l'heure, tu as employé le terme de contre-nature par rapport à l'activité des plateformes, tout ça et tout. Et justement, la nature, elle est extrêmement présente chez Christopher Cook, ou qui est un auteur qui, comme tu disais, prend son temps. Le premier récit, La Tourmente, s'installe lentement. La nature y est vraiment très présente. Mais là, par exemple, pour le code, eh ben moi, l'ouverture, c'est une manière de l'utiliser comme presque comme personnage. Voilà les cinq premières lignes. À 2 heures du matin, chez Gumper, par une froide nuit d'hiver, il n'y avait presque personne. Au dehors, dans la rue noire et silencieuse, une nappe de brouillard lavait tranquillement, de ses grands coups de langue lents et frémissants, les vitres du petit restaurant. Et après, on introduit les personnages.
Oui.
Et je
Ça fait
trouve que
penser
ça,
à.
la nappe de brouillard, qui lave comme une langue, chapeau.
Et puis ça fait penser au tableau, au célèbre tableau de
Hopper.
Hopper, hein,
Oui,
je trouve.
transplanté à la campagne, mais ça fait
Ouais.
complètement penser à ça.
Et alors donc c'est vrai, moi je suis complètement d'accord, hein, avec toi. La nature est omniprésente, hein, dans les histoires de Christopher Cook. Ce roman pourrait très bien figurer. On a parlé tout à l'heure de Gallmeister dans la collection Nature Writing, hein, de
Oui,
Gallmeister.
oui, oui.
Mais je trouve quand même, Hervé, que c'est bien la nature humaine qui a le dernier mot,
Ah, mais bien
hein, celle
sûr.
qui mène à la prison.
Bien
Comme
sûr.
celle qui mène à l'église, hein, dans la dernière nouvelle, on n'en dira pas plus.
Voilà, qui mène aussi à la potence, comme
Oui.
parce que c'est pareil, ça rejoint avec quand tu as lu la quatrième de couverture. Il y a une nouvelle qui s'appelle Lafayette Dugas, Desperado des Bayous, et en fait qui est un retour sur un fait criminel de l'histoire du Wild West, Lafayette Dugas, exécuté en 1879, qui lui-même d'ailleurs, qui était une espèce de bandit de grand chemin, de joueur de poker et tout, et qui organisait des combats de gladiateurs lui-même dans son saloon. Ça préfigure Donnybrook. Mais la nature humaine, avec une espèce de toute façon, les deux, et qui, Lafayette Dugas a fini à la potence, ce que nous raconte cette nouvelle. Je voulais juste ajouter que j'ai l'impression que pour Christopher Cook, de toute façon, nature humaine et nature naturelle, disons, vont de pair. Cette présence de la nature, elle est. Il dit à un moment, elle est porteuse de l'irrésistible sensation d'une existence qui dépasse l'homme, qui en est un élément. Ça fait un peu penser au roman panthéiste de Steinbeck, au Dieu inconnu, par exemple. Enfin voilà, il y a une espèce de fusion, enfin de, en tout cas d'échange qui est toujours présent, mais la nature humaine y est très présente et elle y est très humaine.
Alors donc, Langue de Feu, il y a un des personnages d'une des nouvelles qui dit « Les choses, quand tu les fais comme il faut, ça prend du temps ». Et oui. Je pense que ça s'applique complètement à Christopher Cook, hein, il prend son temps pour écrire. Et
oui.
donc voilà. Et, une petite pause musicale et on se retrouve, Hervé, pour évoquer rapidement, pour conclure cette émission, James Ellroy.
T'as choisi du Lynyrd Skynyrd ?
J'aurais pu, effectivement. J'aurais dû, même. Mais c'est pas ça. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Sandy Dion.
Magnifique.
C'est, voilà, on est obligé d'interrompre. Hein, mais ce
Lynyrd Skynyrd, parce qu'on on sent que c'est une bande-son tout à fait possible pour Donnybrook de Frank Beal, par exemple.
Tout à fait. Mais ça, je trouve que ça colle bien aussi.
C'est
donc,
magnifique.
Alors, il nous reste 4 minutes, top chrono, Hervé,
pour
parler donc rapidement, puisque James Ellroy, il est quand même connu, mais simplement évoquer cette nouveauté, et puis peut-être situer le contexte de cette nouveauté de James Ellroy, Hervé.
Alors, paraît donc chez Rivage Thriller un volume qui s'appelle Extorsion, qui après le très gros Underworld USA est un petit roman ou une novella, comme on dit aux États-Unis. Extorsion, ça met en scène un personnage qu'on avait déjà croisé, je crois, dans American Death Trip, dans Underworld, justement.
Sous son nom ? Sous son nom ?
Comment ?
Sous le même nom ?
Oui, Fred Otash, oui, je crois. Okay. Fred Otash, c'est un personnage c'est un personnage bien réel.
Ah oui, c'est quelqu'un qui a existé complètement.
Tout à fait, qui a existé. C'était d'abord un flic du Los Angeles Police Department, un flic pourri, devenu détective privé, devenu maître chanteur, souteneur, et qui s'était fait une spécialité de colporter des ragots, les dessous des stars pour le compte du journal Confidential.
Voilà,
et voilà. Et
puis aussi pour s'enrichir.
Évidemment pour s'enrichir. Et sa seule devise était de ne jamais commettre un meurtre et de travailler pour n'importe qui, se vendre à n'importe qui, sauf les communistes.
Voilà, c'est ça.
Voilà. C'est une espèce de... Ce que Ellroy imagine dans ce livre assez désopilant, quand même, c'est que Otash, il a été condamné, il est dans le pénitencier du repentir ou purgatoire des pervers, comme dit Ellroy, et ce sont ces vraies fausses confessions.
Voilà, c'est ça.
Voilà, et où effectivement on va en apprendre de belles sur les pratiques comment dire, sexuelles et autres, ouais. Drogue, tout ça, de Ava Gardner, James Dean, voilà. Taylor, enfin, et ouais. Monty Clift.
Mais alors, on peut quand même citer, parce que effectivement, oui. qu'on y croise dans ce roman, on y croise quand même Jean-Paul Sartre, on y croise Simone Signoret, et c'est impressionnant.
C'est absolument impressionnant. C'est assez vertigineux. Et puis évidemment, bon, Elroy s'est aussi bien amusé et il nous amuse bien avec ça parce que il s'y met lui-même en scène puisque oui.
Il rencontre
sous son propre nom puisque il va répandre ses calomnies ou pas, d'ailleurs, auprès d'un écrivain, un plumitif que lui-même trouve très casse-couille, avec sa chemise hawaïenne et sa manière de se mêler de tout et d'avoir toujours le dernier mot, qui n'est autre que James Ellroy.
Voilà.
J'ai trouvé que c'était, comme l'on dit, assez jubilatoire.
Oui. Alors bon, on va devoir terminer, Hervé. Donc il faut dire que ce...
Il y a un bonus aussi.
Oui, il y a un bonus avec deux chapitres de la prochaine série. Hein, de...
Il s'appellera Perfidia. Okay,
Perfidia, donc c'est à découvrir. Mais je pense que, bon, tu nous en reparleras peut-être, puisque James Ellroy est l'invité hein, de Quai du Polar à Lyon. Tu y seras,
oui,
Hervé.
Il est l'invité d'honneur de Quai du Polar.
Tu auras peut-être l'occasion de...
Il est déjà venu en France, Ellroy, mais c'est la première fois qu'il est dans un festival comme ça et qu'il est à Quai du Polar, évidemment, pour les 10 ans de ce festival.
Voilà, donc tu auras sans doute l'occasion de le rencontrer. Alors, tu nous raconteras.
Je vous raconterai, ouais. Oui.
Et alors, 813, pour terminer, donc 813, vous animez deux débats, je pense, à Quai du Polar.
813, on anime deux débats. Le samedi à 14h, le samedi à 16h, on anime un débat qui est un hommage à Frédéric Dard,
ouais.
et à San Antonio.
Bien sûr.
En évoquant les deux, la double face de cet auteur extrêmement célèbre. Et le dimanche à 14h, on anime un débat sur très différent, sur Contre-Utopie et Cauchemar de demain, avec justement Marin Le Dain et Antoine Chénas, mais aussi Ayerdal, l'auteur de surtout connu pour sur le versant science-fiction, et engagé. Et une écrivain d'Afrique du Sud hautement recommandée qui s'appelle Lauren Bucks et qui a fait notamment Zoo City.
Eh ben, très bien, Hervé. Un très bon festival, de bons débats pour 813 et pour toi. Et donc, tu nous en reparles. On se retrouve dans un mois pour un nouveau Variation en noir.
Eh ben, merci. Très bonne continuation.
Voilà, à toi aussi. À bientôt.
À bientôt.
Voilà, salut. C'était Variation en noir sur Radio PFM. Dans Variation, nous allons parler aujourd'hui de Langue de Feu de Christopher Cook aux éditions Rivage, de Donnybrook de Frank Beale à la série noire et de James Ellroy, Extorsion, Rivage, Thriller.